Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 206. Play ball! High fly ball, deep left center field, it is gone!
Mookie Betts, a two-run home run. First homer of the year for the Dodgers, and it's a two-run game.
Eh bien, bienvenue, c'est l'épisode numéro 206 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Et cette semaine, j'ai une mauvaise nouvelle, je serai tout seul parce que Mike n'a pas pu venir. Donc voilà, vous inquiétez pas, il va très bien, mais il avait des choses, je vais pas dire plus importantes, mais il avait des trucs dont il fallait qu'il s'occupe, donc voilà, il est désolé. Donc c'est moi qui vais devoir combler l'épisode pour cette semaine, mais de toute façon vous inquiétez pas, normalement vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, ou alors vous pouvez l'entendre quand même, puisqu'on est toujours sur la période des comptes pleins, donc il y a un compte plein qui sort aujourd'hui, il y en a eu un hier, et il y en a encore un autre demain, donc profitez-en bien. Voilà, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer tout de suite le petit truc qui va bien, pour commencer l'épisode comme il se doit. Jingle News! Allez, ouais, effectivement, le Jingle News, on va commencer par des petites news. Je vais en parler rapidement parce qu'il y a des trucs dont on va déjà parler dans les comptes pleins que vous allez retrouver dans les jours à venir. Donc, le premier que vous allez retrouver, c'est Michael Lorenzen, le starter, pitcher, qui est releveur également. Et voilà, qui a signé un contrat de 4,5 millions pour un an avec les Texas Rangers. Donc, voilà, ça, on en reparlera. On va voir plus tard l'importance que ça pourrait avoir pour les Texas Rangers qui, effectivement, avaient définitivement besoin de pitching. Surtout que pour le moment, ils n'ont. Voilà. De toute façon, ils ont laissé Montgomery partir en tant que free agent. Et bien entendu, c'est le dernier free agent de la Boras Team, le dernier des Fab Four, qui n'a pas encore signé, donc voilà, à suivre quand même de toute façon. Peut-être une réunion Montgomery Rangers qui n'est pas à exclure, même si je pense que il y a aujourd'hui d'autres franchises qui pourraient également se mettre dessus. On avait parlé des Boston Red Sox, faut vraiment, s'ils veulent y aller, qu'ils se mettent dessus. Il y a les Yankees, ça va être plus compliqué. Même si il y a quand même des questions qui se posent après la blessure de Gerrit Cole, bien entendu, dont on a déjà parlé. Et pour le moment, on ne sait pas trop. C'est toujours annoncé pour 1 à 2 mois d'absence, mais on n'a pas plus de détails. Donc voilà, à voir. Le deuxième dont je vais parler, parce que c'est, on va dire que c'est quelque chose qui s'imposait un petit peu. Tout le monde pensait que ça risquait d'arriver, mais on s'étonnait d'ailleurs que ça n'ait pas encore eu lieu. C'est J.D. Martinez qui a signé un contrat d'un an et 12 millions de dollars avec les New York Mets. Voilà, les New York Mets qui, de toute façon, n'avaient pas dans leur effectif de DH. Ça semblait logique qu'ils en cherchent un. Donc voilà, ils signent J.D. Martinez qui a quand même d'excellentes stats la saison dernière au bâton. Donc voilà, bah c'est une très bonne chose qu'il se soit trouvé. Est-ce que ça change réellement l'image qu'on a pu donner et l'analyse qu'on a pu faire des Mets? Peut-être un petit peu, mais je pense pas énormément. Je suis pas sûr que J.D. Martinez soit la pièce qui transforme la saison des Mets de « on verra bien ce que ça va donner » à « putain, ça va être génial et ça va être formidable ». Donc voilà, c'est une bonne addition, c'est quelqu'un qui va leur amener effectivement, normalement qui devrait leur amener un bon average, un bon OPS+, des home runs, enfin qui a un bon bâton, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais l'info qui était importante à mes yeux, en tout cas au niveau des contrats qui ont été signés, c'est Blake Snell. Blake Snell qui a signé un contrat de 62 millions de dollars deux ans avec une option d'opt-out avec les San Francisco Giants. Et ça, par contre, c'est important. Il faut qu'on revienne dessus parce que ça change quand même pas mal de choses. Ça rebat les cartes à nouveau, je pense, au niveau de la NL West. En quoi c'est... Alors déjà, c'est déjà c'était le plus gros free agent, on va dire, entre guillemets, de cette année. Enfin, en tout cas, au niveau du pitching, ça c'est sûr. Dont on attendait la signature, on n'avait rien vu encore. Et on se demandait si effectivement il allait signer. On se doutait qu'il allait signer, mais pour combien ou quand, c'était vraiment dans l'inconnu. Bon bah voilà, le doute n'est plus permis puisqu'il a signé avec les Giants. C'est un bon coup des Giants d'avoir attendu aussi longtemps parce qu'au final, ils l'ont pour un an sûr. En fait, le contrat, faut pas se leurrer, c'est un contrat à la Boras, comme il a fait signer aux autres. C'est-à-dire qu'on va signer un contrat court, mais avec une opt-out à la fin de chaque saison. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir partir. Et puis si on sent que le marché peut être plus intéressant, eh ben, on optera out. Sinon, s'il n'y a pas de marché, n'est pas très intéressant, eh ben, on restera dans l'équipe. Ça va dépendre aussi de la compétitivité. Si les Giants, évidemment, gagnent les World Series, il y a de grandes chances pour que Blake Snell passe sa deuxième année chez les Giants, à moins qu'il ait décidé de mettre surtout du pognon dans sa poche plutôt que des bagues à ses doigts. C'est une très bonne chose parce que avant cette signature, on se posait beaucoup de questions sur la rotation des Giants. Il y avait que Logan Webb qui était vraiment pour lequel on ne se posait pas de questions puisque vu la saison qu'il avait fait la saison dernière, la seule question qu'on se posait c'était comment ils vont pouvoir faire alors qu'ils n'ont que Logan Webb pour tenir et c'était déjà le cas la saison dernière. Bon bah là ça va enlever un maximum de pression de ses épaules puisque bah je ne sais pas qui va être l'ace. J'aurais tendance à dire que je pense que c'est Blake Snell, mais Logan Webb a totalement la possibilité d'être l'ace. Est-ce que c'est vraiment important à ce niveau-là? De toute façon, c'est un 1-2 qui est assez impressionnant. Sur les grosses séries, tu prends quand même un avantage avec ces deux-là. Logan Webb, on sait comme il est fort. Blake Snell, on sait qu'il a tendance à donner beaucoup de bébés, mais il est quand même Cy Young l'année dernière, malgré tous ses bébés, et c'était impressionnant. Donc, Blake Snell, il a des saisons up, des saisons down. Donc voilà, l'année dernière, c'était une saison up. Est-ce qu'il va avoir une saison down? J'espère pour les Giants que ça va pas être le cas. Finalement, ils réussissent à faire une off-season qui est plutôt intéressante dans toutes les signatures qu'ils ont fait, même si ils ont été beaucoup décriés après l'épisode Matt Chapman avec l'histoire de J.D. Davis, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard parce que ça fait partie d'une news que je vais développer un peu plus. Donc voilà, mais je pense que les Giants moi, je me pose beaucoup de questions. Je l'ai pas encore dit parce que ça va, c'est pas encore venu, mais ça va venir dans les comptes pleins. Je me pose pas mal de questions quant à la possibilité que vont avoir les D-backs de refaire la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Il y a quand même des tendances au niveau de leurs chiffres et au niveau de leurs stats qui font se poser des questions quand même sur leur, sur leur capacité à refaire la même chose cette saison, c'est-à-dire être à nouveau jusqu'en World Series. Je me pose même des questions à savoir s'ils vont à nouveau terminer sur la deuxième marche, enfin à la deuxième place de leur division. Pour moi, il est clair que les Dodgers devraient remporter la première place. On va voir si pareil, on va parler d'une news après qui pourrait faire se poser des questions, mais bon, on n'en est pas là encore. Je pense donc que les Dodgers vont remporter leur division. Je vois pas les Padres aller beaucoup plus loin que la... ça va être compliqué. Ils ont quand même récupéré Dylan Cease, c'est un move important aussi. Et je crois que c'était cette semaine aussi. Non, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. Enfin, bah, donc si on n'en avait pas parlé, Dylan Cease va aux Padres. Donc oui, c'est il y a un petit peu plus de va y avoir, je pense, entre les 2, 3, 4, ça risque de se battre un petit peu plus. Moi, les Padres, je les vois un ton en dessous, parce qu'il y a quand même, ils ont plus Juan Soto, ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont perdu Josh Hader. Alors même s'ils ont gardé des gros contrats, ils ont un rookie Merrill qui apparemment a un super bâton, qui devient champ-centre et tout. Donc voilà, on verra. Mais je sais pas s'ils vont réussir à performer cette année. J'ai peur que les D-backs soient bons. J'ai pas dit qu'ils allaient être mauvais, mais qu'ils gagnent pas autant de matchs qu'ils ont pu en gagner l'année dernière, puisque c'était quand même un peu une anomalie. Quand je dis pas ça parce que c'est une anomalie qu'ils y étaient, c'est juste que quand on voit les stats collectives qu'ils ont, et quand on, en fait, ils ont gagné beaucoup de matchs d'un point ou deux. Alors c'est très bien, ils ont été clutch et au moment où il fallait gagner, ils ont su gagner. Mais c'est très compliqué en fait que cette stat sur laquelle t'es bon pendant une saison, que tu arrives à la reproduire de saison après saison. Donc je me demande s'ils vont pas finir plutôt troisième. Et au final, avec les moves qu'ont fait les Giants, même si c'est s'il y en a qui sont un peu questionnés, sur lesquels on peut se poser des questions, le fait d'avoir récupéré Matt Chapman pour pas si cher et d'avoir récupéré Blake Snell pour pas si cher aussi, déjà ça rend l'équipe meilleure. Et puis bah ça les remet, on va dire, ça leur redonne une compétitivité dans cette division NL West, voilà, où on pensait que les places étaient déjà attribuées. Et je verrais bien, en fait, les Giants aller prendre la deuxième place de la division et pourquoi pas aller récupérer une wild card. Donc voilà, c'est un peu mon avis. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer. Ah ben non, on va parler des Dodgers la semaine prochaine, on l'a déjà enregistré. Donc on verra. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, c'était ce qui me passait par la tête. Et donc voilà. Donc j'ai fini avec les petites news sur les moves qu'on a pu voir. Il y a une news dont il faut beaucoup parler. Elle est tombée pendant... Puisque... je ne l'ai pas dit. Mais il y a eu... c'est pas l'opening day, on va dire l'opening series. Parce que l'opening day, pas encore maintenant, c'est la semaine prochaine. Mais l'opening series qui a eu lieu en Corée entre les Dodgers et les Padres. Un partout. Enfin, allez voir. Les matchs se sont déroulés. Les Dodgers ont gagné le premier. Les Padres ont marqué le deuxième dans un festival offensif sur le deuxième. Je voulais savoir, aller voir si vous voulez en savoir plus. Mais il s'est passé quelque chose pendant cette série en Corée qui a chamboulé et dont on a un peu le monde du baseball et dont on a beaucoup parlé. C'est l'histoire entre l'histoire avec Otani et surtout son interprète. Son interprète qui a été viré des Dodgers. Les Dodgers l'ont renvoyé, fired directement. Il était en Corée avec eux, il était encore sur le banc pendant le premier match, et à la fin du premier match, il a été viré. On a appris en fait qu'il avait donné une interview où il a parlé des problèmes qu'il pouvait avoir. Alors, justement, toute l'histoire maintenant va tenir en deux choses. Je vais vous raconter la première partie et ensuite la deuxième. La première partie, en fait, donc il a fait une interview dans laquelle il a expliqué qu'il avait des problèmes. Il avait fait des paris illégaux, puisque pas des paris dans des sites référencés, mais plutôt chez des bookmakers un peu obscurs. C'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est juste que c'est plutôt obscur comme histoire. Et qu'en fait, Otani. Shohei Ohtani lui aurait donné 4,5 millions de dollars pour éponger ses dettes et pour surveiller aussi. Mais il les lui a donné, il l'a surveillé pour voir que ces 4,5 millions de dollars, il n'allait pas les dépenser pour miser encore plus, pour essayer de récupérer la mise. Donc voilà, parce qu'apparemment, j'ai l'impression que ce monsieur a un petit problème d'addiction au jeu. Et ça, c'était juste avant la série, un peu avant la série, deux jours avant la série, je crois. Et à la fin de la série, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les avocats d'Otani ont changé la narration. Et eux ont dit, non, c'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on dépose plainte contre l'interprète. Parce que, en fait, non seulement il a fait des paris illégaux, mais surtout il a profité de Shohei Ohtani et il lui a surtout volé de l'argent. Donc, en fait, on est passé d'une narration de l'interprète comme quoi c'était Shohei Ohtani était au courant et lui a donné de l'argent. Donc, l'interprète a dit non, mais en tout cas, par contre, Shohei Ohtani est pour rien. Lui, c'est pas lui du tout qui a misé des sommes et il s'est dédouané en disant qu'en plus, il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de miser sur le baseball, donc il a misé effectivement des grosses sommes sur du sport, mais par contre, il n'a pas dû jamais miser sur le baseball. Après, j'ai envie... Et la narration qui est maintenant donnée par les avocats de Ohtani, qui ont juste donné cette version et n'en ont pas dit plus, c'est un vol aggravé, puisque Ohtani n'était pas au courant. Donc, on va se retrouver dans les semaines à venir avec deux versions complètement, avec deux versions différentes. Et là, en fait, il va rentrer quelque chose d'important qu'il faut se mettre dans le crâne, c'est que en fait, si c'est pas la même chose et ça sera pas vu de la même façon pour lui, si Otani l'a aidé à couvrir ses dettes en étant au courant de son problème de jeu, ou si c'est un vol et qu'il n'était pas du tout au courant et qu'on lui a détourné une somme d'argent. Donc en fait, là, c'est la narration, en fait, les avocats d'Otani, ils ne la changent pas pour rien. Ils la changent parce qu'en fait, Otani, aujourd'hui, il faut qu'il soit bankable, il a des contrats de pub qui sont énormes, et ils se disent que, oh là 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 là, ça pue du cul, il faut à tout prix qu'on lance un contre-feu. Moi, je sais pas, hein, je sais pas quelle est la vérité, je me prétends pas avoir des informations plus que d'autres, mais de ce que j'analyse de la situation, il y a quand même deux narrations différentes, une qui est donnée par quelqu'un pendant une interview, et l'autre ensuite qui est donnée par des avocats sans aucune information. Donc, on peut y voir quand même une tentative des avocats pour essayer de limiter la casse au niveau de Shohei Ohtani. Ça aura, je pense, des répercussions sur la saison. Ça, on va en parler pendant. Ça commence que maintenant. On va en parler encore longtemps. Ça va permettre aux journalistes d'écrire plein de choses dessus. Comme la justice va suivre son cours, c'est un truc qui va rester en suspens. Est-ce que Shohei Ohtani, ça va lui trotter dans la tête? Parce que c'était quand même. C'était quand même un de ses meilleurs amis. Enfin, de toute l'image qu'on en avait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on avait pu voir. Ils étaient quasiment tout le temps ensemble. Enfin, c'était devenu. Au-delà de son interprète, c'était son chauffeur, c'était aussi son ami. C'est avec lui qu'il allait lancer des ballons en outfield quand il devait s'échauffer. C'est avec lui qu'il passait ses vacances. Cet interprète, j'ai plus son nom, je l'ai pas en tête, donc je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, disait même que il passait plus de temps avec Shohei Ohtani qu'avec sa femme. Donc voilà, c'est quand même des gens qui ont partagé beaucoup de choses, qui ont passé beaucoup de temps ensemble. Quelles répercussions ça va avoir sur le mental, sur la saison, sur Ohtani en général, et au-delà d'Ohtani, ce que ça va avoir comme répercussions sur sur la saison des Dodgers. Voilà, beaucoup de questions. C'est l'affaire, elle est tombée il y a deux jours. Donc là, pour le moment, tout le monde est un petit peu dans l'expectative. Tout ce qu'on peut trouver, toutes les infos, c'est un peu les mêmes qui sont ressassées. C'est plutôt suivre au jour le jour, le déroulement de l'affaire, comment elle a éclaté en fait quasiment heure par heure. Donc voilà, c'était important qu'on en parle parce que je pense que tout le monde en a entendu parler, et tous ceux qui s'intéressent en tout cas au baseball en ont entendu parler. Et voilà, bon, je vous ai donné mon humble opinion. Je suis désolé, j'aurais bien aimé la partager et que vous avec Mike, j'aurais bien aimé avoir son opinion là-dessus, mais je me fais pas de doute. Je pense que de toute façon, dans un prochain épisode, on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, il aura entendu ce que j'aurais dit, et il pourra. C'est lui le roi du pognon. Tout le monde le sait bien. C'est le mec vénal de l'épisode. Donc c'est pas à moi qu'il faut demander, puisque moi je suis quand même Monsieur Guillaume au pays des bisounours. Lui non, c'est le méchant Mike au pays des grands méchants argentiers. Donc voilà, je pense qu'il aura l'occasion de vous donner un petit peu plus d'informations, et surtout d'informations, je sais pas, mais en tout cas de vous donner son avis dans les semaines à venir. La dernière news dont je voulais parler, elle est pas aussi retentissante que la puette celle d'Otani, mais elle a son importance également. C'est tout l'imbroglio qui se déroule en ce moment au niveau de la MLBPA. L'affaire de J.D. Davis, dont je vous parlais tout à l'heure, pour revenir sur cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Giants avaient signé un... Alors, les Giants et J.D. Davis, pendant la off-season, enfin cette off-season qui vient de se passer, n'ont pas réussi à trouver un accord au niveau de leur arbitration. Donc ils sont allés devant le juge, enfin le tribunal de l'arbitration, on va dire, qui a dit que c'est que J.D. Davis avait raison. Et donc les Giants lui donnaient un contrat de 6,9 millions de dollars pour la saison à venir, la saison 2024. Mais les Giants ont décidé d'aller enchérir sur Matt Chapman. Donc J.D. Davis joue en troisième base, Matt Chapman joue en troisième base, ils n'allaient pas en bouger, Matt Chapman on le bouge pas de la troisième base, et J.D. Davis ils n'allaient pas le mettre ailleurs. Donc ils se sont servis d'un espèce de trou de souris, un espèce de on dit un loophole en anglais, c'est pas vrai parce que en fait ils ont été dire que pour des raisons parce qu'il n'a pas été... Alors, pourtant, il faisait un spring training J.D. Davis qui était plutôt mauvais, mais ils ont été dire qu'en raison de ses pauvres performances, ils ne pouvaient pas le garder. Et donc, dans ce cas-là, s'ils n'avaient pas été au bout de l'arbitration et à avoir été jugés, si en fait les Giants avaient évité l'arbitration avec J.D. Davis et qu'ils lui avaient donné un contrat pour 6,5 millions de dollars, je crois que c'était ce qui était prévu, ou 6,3, enfin un peu moins de 6,5, en fait les Giants n'auraient pas pu faire ça. Mais comme ils ne se sont pas mis d'accord au moment de l'arbitration et qu'ils sont allés jusqu'au bout de l'arbitration avec un jury qui a dû décider qui avait raison, qui a raison, qui a tort, et comme ils sont allés devant ce jury, et ben les Giants ont pu faire ça. Et en fait, ce petit trou, il vient de la MLBPA. Avant le CBA qui a été signé la dernière fois, il y a 2 ans, en fait, n'importe quelle équipe, avec n'importe quel joueur qui avait passé l'arbitration, qu'ils aient trouvé un accord, qu'ils aient évité l'arbitration, qu'ils aient gagné l'arbitration ou qu'ils aient perdu l'arbitration, toutes les franchises avaient la possibilité, quoi qu'il arrive, de faire ce truc un petit peu fourbe, mais ils s'en servent, de dire bon bah non, finalement, il est pas assez bon là pendant le spring training, donc on va pas le payer ce qui était prévu avec l'arbitration, et on va juste lui donner ce qu'on lui doit, à savoir 1,1 million de dollars. C'est ce qui se passe avec J.D. Davis, qui va finalement a trouvé aussi un contrat de 2,5 millions de dollars avec les A's, donc ça il va, mais au lieu de toucher 6,5 millions, il va toucher seulement 3,6 millions, donc c'est quasiment il passe du simple au double. Alors, il va pas pleurer, enfin on pleure pas sur un mec qui va être millionnaire quoi qu'il arrive, mais c'est pour vous dire quand même le truc, c'est quand même les Giants sont passés par un trou de souris, mais qui fait partie des accords qui ont été signés avec le CBA. Donc voilà. Et en fait, ça a déclenché tout ça, une tempête médiatique qui a fait que il y a pas mal de questions qui se posent. Et en fait, il y a un groupe de joueurs et d'agents de joueurs qui aimeraient bien qu'on change un petit peu les responsables en fait de l'union de la MLBPA et surtout le numéro 2 meilleur Clark étant Tony Clark est le premier et c'est meilleur, je me souviens plus son nom, son prénom, mais donc meilleur, ils veulent le mettre dehors. Ils disent que apparemment il a un manque de il est pas très communicant, il a une pauvre vision du baseball et on se pose des questions sur sa façon de gérer le budget de la MLBPA. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs qui ont demandé un audit des dépenses faites par la MLBPA. Et en fait, à l'intérieur de la MLBPA, aujourd'hui, on sait que les minor leagueurs ont signé un agreement, ont fait partie de l'agreement, et en fait ça c'est grâce à un mec qui s'appelle Marino, et Marino il est monté, et il a une énorme aura aujourd'hui à l'intérieur de la MLBPA, puisque c'est lui qui a permis à tous ces minor leagueurs d'être syndiqués aussi, et donc d'avoir plus de droits qu'avant, et en fait... il est en train de se positionner il est en train d'essayer de créer une scission au niveau de la MLBPA. Il dit que c'est pas vrai, qu'il aimerait bien travailler avec Clark et tout machin, mais on sent que ça va être une guerre d'ego et une guerre de pouvoir entre les deux, parce que il y en a un qui est assis sur la MLBPA depuis un petit moment, et l'autre qui vient d'y rentrer mais qui allait dans l'ongle. Donc il y en a un, Marino, qui se dit être le défenseur des de tous les joueurs moyens, en fait, de baseball, puisque c'est ceux qui sont les plus nombreux, et qui, alors que Clark, on dit de lui qu'il défend surtout ceux qui gagnent le plus. En soi, c'est un petit peu vrai, mais c'est pas forcément la faute de Clark, c'est surtout la faute des représentants des joueurs, ou dans les représentants des joueurs, il y a quand même beaucoup des top salaires de la ligue. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, ça va être un truc à garder en tête et à regarder, parce que c'est en train de, ça fait des remous. Et quoi qu'il arrive, qu'il y ait un putsch ou qu'il n'y en ait pas, ça va faire bouger quand même pas mal de lignes à l'intérieur de la MLBPA. Parce qu'il y a tous les joueurs, tous les minor leaguers qui arrivent, qui, comme ils sont nombreux, et ben finalement, à partir du moment où tu as cette masse nombreuse de joueurs derrière toi, s'il y a un vote et qu'au vote, c'est pas seulement sur les top représentants, mais si on demande leur avis à l'ensemble des joueurs syndiqués, et ben il pourrait arriver un putsch. Donc voilà, ça c'est un truc encore à garder. Je pense qu'on en reparlera encore aussi la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. C'est tout frais. Le truc est en train de monter, la sauce est en train de monter, la cocotte est en train de gonfler. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses dont on va devoir parler. Parce qu'il y a des possibilités si effectivement ça change. Qu'il y ait des trucs qui essayent, qu'on essaie, que les joueurs essayent de négocier avec à nouveau les owners, et qui pourraient amener vers un nouveau lockout dans les mois ou les années à venir. Donc voilà. Bon, finalement, pour un truc où il n'y avait pas forcément tant de news que ça, il y en avait déjà deux grosses, et puis après, il y avait des trades assez intéressants et des free agents qui sont venus. Donc je pensais pas que j'aurais autant à dire, mais finalement, si. Et puis, je vais vous mettre le petit générique qui va bien, parce que j'ai pas une petite connerie, mais j'ai un petit truc à vous dire. À tout de suite. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
The fuck is with this guy? Who is he?
Ouais, j'ai un petit truc à vous dire. Petite surprise, il y en a qui le savent déjà, parce que ceux qui suivent sur Twitter ont déjà vu les messages passer, et je sais qu'il y en a qui y ont été. On avait parlé de OTP l'année dernière, et j'avais dit que j'aimerais bien faire une série, peut-être la montrer, la partager, et voilà. C'était des mots qui étaient restés en l'air, je ne l'avais pas fait. Et la semaine dernière, c'était vendredi dernier, il y a le nouvel OTP qui est 25 qui est sorti. Et ouais, je crois que c'était la semaine dernière, enfin, peu importe. Et je l'ai pris, effectivement, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à y jouer, et j'ai envoyé un petit message, parce que j'ai envoyé une petite photo sur Twitter en disant, regardez, et en fait, j'ai commencé à jouer avec les Los Angeles Angels, je trouvais ça marrant. Alors, ça marrant. Oui, c'est parce que, en fait, par rapport à la façon dont on joue à OTP, le fait de prendre une équipe qui soit faible, mais vraiment très faible, avec pas beaucoup d'avenir, avec des joueurs médiocres et surtout un farm system dégueulasse, c'est un gros challenge, et puis ça m'intéressait de le remplir. Et puis c'était surtout le petit clin d'œil, parce qu'on leur tape tellement dessus, et on aime tellement leur taper dessus, que c'était pour voir si, moi avec ma grande bouche, j'étais capable de faire mieux, au moins dans OTP, parce que je pense que dans la vraie vie je suis pas capable, mais qu'au moins dans OTP, voir si j'arrivais à faire mieux que le board actuel des Angels. Et en fait, en envoyant ça, je me suis rappelé ce que j'avais dit l'année dernière. Je me suis dit, putain, c'est con, j'aurais dû le faire et tout, machin. Et je me suis tâté pendant quelques jours. Et finalement, en début de semaine, au milieu de la semaine dernière, j'ai dit, allez, ça y est, je me lance. Donc, j'ai fait des vidéos. C'est des vidéos de jeu. Je m'appuie sur la saison que je suis en train de faire. La partie que je suis en train de faire avec les Angels, donc si vous allez regarder, vous trouvez sur ma chaîne, c'est Guillaume-à-coup-sûr. Donc vous verrez, je m'appuie sur cette partie avec les Angels pour faire une explication de OTP, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, c'est mon 10, ouais, c'est super sympa et tout, mais c'est un peu compliqué et je comprends pas tout. Donc voilà, et comme je l'ai dit, moi je me suis pété sur des euh, sur des tutos en anglais avant de jouer à, je crois que c'était au Tipeee 19 ou 18. Je me suis tapé au Tipeee 20. Non, c'était au Tipeee 20. Je me suis fait 10 heures. Je crois que c'était 10 heures de tuto pour savoir comment y jouer. Et pas que savoir comment y jouer, mais pour pouvoir un peu toucher ma bille. Et donc voilà, je me suis dit, bah, si moi, je pouvais essayer de le rendre. Parce que j'imagine que si moi, j'y joue, je ne suis pas le seul à vouloir y jouer. Donc voilà, comme j'ai des gens qui m'ont demandé, bah, j'ai commencé. Donc voilà, donc si vous allez sur ma chaîne, Guillaume à coup sûr, sur YouTube, vous verrez, il y a déjà 5 vidéos aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc où je fais des explications, c'est découverte d'OTP 25, et donc j'explique en fonction de l'avancée, j'explique différentes choses. J'ai déjà expliqué le paramétrage, il y a 2 vidéos sur le paramétrage, parce que le paramétrage peut prendre pas mal de temps, et c'est bien de l'expliquer pour que vous puissiez le faire. Et après c'est sur le rôle du GM, il y en a un autre sur le scouting. Et le troisième, c'est sur la draft. Voilà, enfin, le cinquième, c'est sur la draft. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Pour tout avouer, j'en avais comme enregistré un autre tiers, mais j'ai eu un gros problème de son. Je vais pas le mettre en ligne. Donc je vais avancer un peu la partie et je reprendrai, je pense, dans le week-end. Je pense qu'il y a moyen que je mette une ou deux vidéos pendant le week-end du jeu pour continuer en fait ce. Cette petite série, et ça me fera très plaisir. Et puis surtout allez voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous êtes pas obligé, mais vous pouvez toujours y aller. Et puis surtout donnez-moi votre retour, parce que ça me permettra d'adapter, de savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est intéressant, si je suis trop long, si je suis chiant, si vous voulez voir d'autres trucs. Donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike n'est pas là, mais je peux vous garantir à coup sûr qu'on sera là. Et quand je dis on, c'est ou moi, ou lui, ou moi et lui. On sera là la semaine prochaine pour l'épisode numéro 207. Allez, je vous refais à nouveau des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao.
Machado drives one to deep left field. It is back and it is gone. 3-run home run for Manny Machado. A blast in Seoul, South Korea. Padres take a 15-11 lead.